Chapitre 38. Si Clémence n'avait eu en main d'autres armes que celles que la passion d'Arthur lui donnait, elle serait restée fort embarrassée pour obtenir la révocation du testament dont M. de Carquebus lui avait révélé l'existence. Mais, heureusement pour elle, le moyen qu'elle avait employé pour reprendre possession du marquis n'avait pas produit tous ses effets utiles et elle pouvait encore en tirer parti. Irrésistible en ce moment, ce moyen ne devait pas garder longtemps sa toute-puissance. Un jour ou l'autre, il faudrait avouer que cette grossesse miraculeuse n'existait pas, ou tout au moins n'existait plus. Il y avait donc urgence à l'exploiter pendant qu'il en était temps encore. Le lendemain, elle aborda résolument la question avec le marquis. « Hier, dit-elle, j'ai été très inquiète de l'air sombre que vous aviez à votre retour. » Je vous ai interrogé, vous m'avez répondu d'une manière évasive. Je n'ai pas pu me contenter de ces réponses, et comme vous m'avez dit que votre mécontentement venait de certains discours dont M. de Carquebus n'avait pas craint de vous fatiguer, j'ai voulu savoir de celui-ci quels étaient ces discours. Ne voyez pas là une indiscrétion, mon ami, ni une curiosité coupable. Vous savez que je suis incapable de l'une comme de l'autre. J'ai voulu simplement apprendre la cause de votre contrariété pour vous distraire si je le pouvais. Et puis, d'un autre côté, j'ai voulu avertir M. de Carquebus d'avoir plus de discrétion à l'avenir. Il m'a rapporté tout ce qui s'était dit dans votre promenade. Ah ! Tout ! Et vous devez penser que je lui ai fait de vigoureuses observations pour avoir abordé un sujet qui vous est si pénible. Cela aurait été stupide de sa part si cela n'avait point été intéressé. Il ne vous a parlé de son testament que pour vous engager à faire le vôtre. Je m'en suis bien douté. Et c'est pour cela que vous lui avez répondu que ses conseils venaient trop tard? Bonne défaite pour vous en débarrasser. Pourquoi, en même temps, ne lui avez-vous pas dit que ce testament était à son profit exclusif? Cela vous eût assuré la tranquillité à jamais. Je ne pouvais pas lui dire une chose qui n'était pas. Elle se mit à rire et le raillant de la main. « Il me semble cependant que vos scrupules ne vous ont point empêché de lui conter cette histoire de testament, bien inventée d'ailleurs. Pendant que vous étiez en train, vous auriez pu ajouter à l'invention du testament celle du légataire. Les deux s'enchaînaient. Ayant bien dit pour l'une une chose qui n'était pas, vous pouviez bien la dire pour l'autre. » Le marquis se montra très embarrassé. Il était évident qu'il désirait ne pas continuer cette conversation. Cependant, après un moment de silence, il se décida à répondre. « Mais je n'ai rien inventé. Vous savez que j'ai pour habitude de ne rien dire qui soit contraire à la vérité. Pardon, je ne comprends pas. N'avez-vous pas dit à M. de Carquebus que vous aviez fait votre testament ?»« Je l'ai dit. Eh bien, est-ce que cela n'est pas contraire à la vérité ?» Le marquis parut de plus en plus gêné. « Non, dit-il. Comment, vous étiez sincère en répondant que vous aviez fait votre testament ? Eh bien, est-ce que cela n'est pas contraire à la vérité ? » Le marquis parut de plus en plus gêné. « Non, dit-il. Comment, vous étiez sincère en répondant que vous aviez fait votre testament ? » Après un moment de silence, elle se mit tout à coup à rire. « Ah, j'y suis, s'écria-t-elle. Vous avez été sincère, mais vous avez été encore plus habile. La sincérité a été de dire que le testament avait été fait, l'habileté de ne pas dire qu'il avait été défait. On voit bien que vous avez été élevé par un chanoine qui vous a enseigné l'art des réticences. » Elle savait qu'en parlant ainsi, elle l'obligerait à s'expliquer, car il ne pouvait pas supporter qu'on suspectât sa franchise. Ce fut en effet ce qui arriva. « Je me suis renfermé dans la stricte vérité, dit-il. Quant à la confection du testament, mais quant à sa révocation, il n'a pas été révoqué. » Elle resta un moment immobile, les sourcils élevés, la bouche ouverte, montrant dans toute sa personne les signes de l'étonnement et de la stupéfaction. « À mon grand regret, dit-elle, je vais être obligée d'imiter M. de Carquebus et de vous parler d'un sujet qui vous est pénible. » Mais c'est un devoir pour moi et je ne recule jamais devant un devoir à remplir. Vous me rendrez ce témoignage que je n'ai jamais fait la plus légère allusion à votre testament. Que vous ayez fait un testament ou que vous n'en ayez point fait, que m'importait en effet? Ce n'était point mon affaire. Dieu merci, vous avez eu 100 fois la preuve que je ne vous aimais pas pour votre fortune. J'avoue franchement que j'ai été très sensible aux satisfactions que nous donnait cette fortune. J'ai joui avec un bonheur profond du luxe dont vous m'entouriez, de la grande existence que vous avez voulu mener, soit à l'étranger, soit dans ce château, qui, pour moi, a été un séjour enchanté. Mais je n'ai jamais séparé ces jouissances de votre personne. Je veux dire, si je m'exprime mal, que je n'ai jamais imaginé qu'elles pouvaient exister sans vous. Jamais je ne me suis demandé si je ne souffrirais pas de la privation de ces plaisirs dans le cas où je viendrais à vous perdre. Dans ma vie, en effet, ils n'ont jamais été qu'un complément de bonheur, une sorte d'accompagnement. Ce n'était pas tant de les goûter que j'étais heureuse, c'était de les partager avec vous. Vous disparaissez, tout s'anéantissait. Croyez-vous que tels ont été mes sentiments? Dites, répondez franchement, le croyez-vous? Je le crois. Cette parole sera, quoi qu'il arrive, ma récompense, et si je l'ai provoquée, c'est que j'avais besoin de savoir comment vous me jugiez. Ainsi, vous reconnaissez vous-même que depuis que nous nous aimons, je vous ai donné constamment et de toutes les manières des preuves de désintéressement. Ceci dit, j'arrive à cette fâcheuse question de testament. Que vous ayez cru pouvoir disposer de votre fortune il y a 1 an, il y a 2 ans, je ne m'en inquiète pas, et je ne m'inquiète pas davantage de chercher en faveur de qui. Le nom de votre légataire n'a d'importance pour moi qu'autant que ce serait le mien. Car si le testament était fait à mon profit, tout ce que j'ai à vous dire deviendrait inutile et nous pourrions clore là ce douloureux entretien. Je vous prie donc de me permettre de vous demander si c'est à moi que, par ce testament, vous laissez votre fortune. » Le marquis hésita un moment, puis enfin il répondit d'une voix basse « Ce n'est point à vous. » « Alors je dois maintenant vous poser une question qui m'étouffe. Comment se fait-il que vous n'avez pas révoqué ce testament le lendemain du jour où vous avez su que j'allais vous donner un enfant? Il n'est donc pas tout pour vous, cet enfant ?» En répondant à votre première question, je vais vous faire sentir combien la seconde est injuste. Je n'avais point révoqué ce testament parce qu'il devenait nul par le seul fait de la reconnaissance de mon enfant. Il me semble que la loi n'accorde pas la totalité de la fortune d'un père à un enfant naturel, alors que ce père laisse des héritiers. Sans doute, mais je pensais que la part dont notre enfant aurait été privé n'était pas tellement importante que je dusse faire un nouveau testament pour l'instituer dès maintenant mon légataire universel. Vous savez peut-être que pour qu'un enfant puisse recevoir par testament, il suffit qu'il soit conçu à l'époque du décès du testateur. Je puis donc tester en faveur de notre enfant, et je le ferai, si vous le désirez, malgré les dangers que présente un testament de ce genre. « Non, s'écria-t-elle, cela je ne le veux pas, car sans connaître tous les dangers dont vous parlez, j'en vois assez pour repousser d'une façon absolue un pareil testament. » Clémence, qui depuis plusieurs mois étudiait le code, savait parfaitement qu'à la suite de la disposition que le marquis venait de lui citer, s'en trouve une autre qui dit qu'un testament en faveur d'un enfant qui n'est pas né ne sera valable qu'autant que cet enfant sera viable. À quoi lui eût servi un testament fait en faveur d'un enfant qui ne verrait jamais le jour? Maintenant, continua le marquis, j'espère que vous voyez que je n'ai pas oublié notre enfant. Ne voulant pas faire de testament en sa faveur, j'aurais pu, il est vrai, en faire un à votre profit pour le cas où je ne serais plus de ce monde au moment de sa naissance. Mais vous êtes Madame Beaujonnier, et j'avoue que la pensée de voir ma fortune passer aux mains du capitaine m'a toujours retenue. Il est votre mari, après tout. J'ai demandé ma séparation de biens. Je l'ignorais, mais cette séparation prononcée, cela ne fera pas que vous puissiez accepter une succession sans l'autorisation de votre mari. Or, le capitaine est homme à ne vous vendre cette autorisation qu'au prix de la plus grosse part de l'héritage que vous auriez à recueillir. Trouvez-vous mauvais que je ne veuille pas que ma fortune serve aux fantaisies ou aux vices de M. Beaujonnier? Non, n'est-ce pas? Eh bien alors, ne nous exposons pas à toutes ces difficultés et laissons de côté, pour n'y jamais revenir, cette question de testament qui m'est plus douloureuse que je ne saurais le dire. Dieu merci, je ne suis pas mourant et j'espère bien que Dieu me fera la grâce de vivre assez pour embrasser mon enfant. Alors les dispositions que je prendrai vous donneront toute satisfaction pour lui et pour vous. Jusque-là, laissez-moi être heureux par cette espérance et au lieu de nous jeter dans des pensées tristes qui peuvent nous conduire à la maladie, n'en ayons que de gaies qui nous donneront une longue vie.